France Inter, la Terre au carré.
Et Camille Cronier, c'est l'heure de votre lutte enchantée.
Toujours en pleine ascension du Mont Blanc, crampons aux pieds, piolets et bâtons dans les mains, frontal sur le casque, avec un paysage et des lumières incroyables partout autour de nous. Le jour qui se lève sur les arêtes rocheuses, franchement, c'est quelque chose. Mais pendant que je m'extasie, le glaciologue Bruno Jourdain est agenouillé dans la glace, le nez sur une sorte de valise orange.
C'est quoi, en fait? On est où, là?
Nous sommes à la pointe de Bravée, juste en dessous du Dôme du Goûter. Donc un peu plus de 4000 mètres. Et on a installé juste en dessous de là où t'as tes pieds un sismographe. C'est des capteurs qui enregistrent tous les sons qui se propagent dans le glacier. Donc tous les craquements, les chutes de blocs et le fait d'en avoir plusieurs autour de la chute de Sérac, parfaitement orientée, ils espèrent avec ça être capables d'estimer les volumes de glace qui tombent, la fréquence de ces chutes de glace et puis peut-être de détecter aussi des bruits précurseurs des grosses chutes de Sérac.
Allez, on repart.
Direction 4382 mètres précisément, où se trouve un bâtiment exceptionnel, le refuge Valot, du nom de Joseph Valot, mort il y a tout juste 100 ans. Un grand curieux, alpiniste, cartographe, botaniste, physiologiste, glaciologue, premier à avoir mis en lumière la dynamique des glaciers et à avoir pensé à la science montagnarde sur le long terme. Mmh. Mylène Bonnefoy de Mongeau a bien conscience de l'héritage.
On utilise sur certaines recherches les mêmes méthodes, les mêmes instruments, même qu'il a pu mettre en œuvre à l'époque. Un siècle plus tard, ça a toujours de la valeur. Et nous voici donc
l'observatoire.
Le refuge, construit en 1898, est aujourd'hui un observatoire CNRS où il est rare de pouvoir entrer. Brad Carlson de la Compagnie des Guides de Chamonix et écologue spécialiste de la flore alpine a des étoiles dans les yeux.
Oui, je suis ravi de voir, de découvrir cet endroit, franchement.
C'est une première ?
Oui, c'est la classe.
Et qu'est-ce que ça fait pour toi qui est à la fois scientifique et alpiniste et guide ?
Là, c'est la capitale. Du croisement entre ces deux activités, entre ces deux disciplines. Et il y a Saussure qui est passé par là avant, mais c'est Valot qui a vraiment concrétisé ça avec la construction de cet observatoire.
Là, c'est quoi ?
Là, c'est impressionnant.
Avant son époque, on pensait que le corps humain ne résisterait pas à une nuit, plusieurs nuits en altitude. Et quand il a bivouaqué au sommet du Mont Blanc, fin 19e, avec ses guides, ils avaient passé trois nuits d'affilée au sommet du Mont Blanc, sous la tente. Et en fait, la première nuit, il se réveille et Valot dit « Alors, personne n'est mort ?»« Non ?»« Bon, super, on continue. »
Et justement, nous aussi, on continue avant de revenir dormir chez Valot.
On y va tranquille ?
Ouais.
Ça va ?
Allez.
Eh ben allez, bon, feu flamme.
Dernière étape.
On vous suit.
Le sommet du Mont Blanc est droit devant et après quelques efforts supplémentaires sur la glace, nous voici seuls, sans aucune cordée au sommet, 4810 mètres, le toit de l'Europe.
On y est. Putain, c'est incroyable.
Bravo Camille.
Ouh, trop contente.
Mais difficile de ne pas penser quand même à ce qui se joue sous nos pieds. Enfin, Xavier Cayol, qui prépare une thèse, lui, sur l'alpinisme face aux risques glaciaires, n'est pas tout à fait de cet avis.
Je sais pas si le Mont Blanc, il est vraiment emblématique de ce qui se passe pour les gens qui vivent un peu justement ces changements environnementaux. Et je pense que, en fait, c'est un peu, entre guillemets, une fausse route où t'as l'impression que c'est plus facile de sensibiliser parce que tu parles du Mont Blanc et que les gens, ça leur parle. Mais en fait, ils se représentent pas ce que veulent dire forcément des changements environnementaux et les impacts qu'on a, nous, en tant que société, justement, sur ces milieux-là.
Donc mon reportage, il sert à rien.
Non, pas du tout. Ton reportage, il sert pas à rien dans le sens où, en fait, là, on parle de toute une expérience, on parle d'aventure humaine et tout ça. Mais en fait, il se serait passé ailleurs qu'au Mont Blanc. Il aurait eu, pour moi, en fait, la même signification, le même sens et la même valeur. Mmh. Et le Mont Blanc, c'est un vecteur parmi tant d'autres. Mais pour moi, c'est pas le vecteur principal. Ce qui est le vecteur principal, c'est toute la recherche que Mylène, Bruno vont faire, que moi je vais pouvoir faire. C'est les compétences des guides, c'est les compétences des gens qui justement viennent prendre du son, prendre de l'image. Et en fait, c'est tout ça qui fait une alchimie. On va pouvoir sensibiliser sur cette question-là.
Sensibiliser, produire de la donnée encore et toujours. Le travail scientifique est une lutte en soi, particulièrement en ce moment, avec de plus en plus de tentatives de décrédibilisation au niveau international, national et même local.
Quand vous êtes au sommet comme ça, vous regardez tout le paysage, vous pensez à quoi ?
Ça rend vachement humble. Et on voit bien qu'on a beau vouloir maîtriser toutes les choses de la vie, non, en fait. Ce milieu-là nous remet à notre place, quoi. Je pense que pour qu'on arrive aussi à faire des efforts en bas, il faut savoir déconnecter simplement de temps en temps. et profiter d'être dans un endroit exceptionnel comme ici, quoi. Pour se ressourcer, reprendre de l'énergie. Et après, on se retroussera les manches une fois qu'on sera à nouveau dans la vallée.
Et nous y voilà, manches retroussées, reboostées, pour que partout où c'est possible, continuent bien sûr les luttes enchantées.
Et ça, c'était la semaine dernière. Hein. Vous étiez donc sur le toit de l'Europe.
C'était mercredi après-midi, précisément, mercredi. Sur le sommet du Mont Blanc.
Camille Cronier, c'était votre dernière lutte enchantée, mais aussi votre dernière terre au carré. On va se dire au revoir dans 5 minutes après le répondeur. Vous restez avec nous.